Bonsoir, vous êtes sur Zoom Écologie, sur RFPP 106.3, l'émission consacrée à l'écologie, aux questions environnementales plus larges. Ce soir, nous allons parler avec deux intervenants des OGM et du fauchage d'OGM lié à l'actualité, puisqu'il va y avoir un procès pour les faucheurs d'OGM à Colmar. Alors donc ce soir, pour... parler de cette question, il y a Hervé Lemeur, président d'OGM d'Angers. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons également Guillaume Decroo, qui interviendra au téléphone. Voilà. Guillaume.
Bonsoir, je suis par là. Vous m'entendez ?
Oui, oui. Allô, allô ?
Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, ouais, on vous entend.
Eh ben, très bien.
Très bien, super.
Donc, voilà.
Donc pour commencer, alors on vous explique comment l'émission va se dérouler. Elle va se dérouler en trois parties. Première partie, on va parler des OGM. C'est quoi les OGM ? Comment on produit des OGM ? Quelles sont les implications ou les conséquences politiques, morales, éthiques, environnementales de ces produits ? Dans un deuxième temps, on parlera du fauchage. Que Guillaume, justement, Decroo essaiera de mettre en perspective, dans une perspective historique un peu plus longue, pour montrer que avant ça ne concernait pas forcément des citoyens, mais des paysans, et donc dans une histoire plus longue. Le fauchage, donc, a une longue histoire. Et en troisième partie, on parlera précisément du fauchage qui a eu lieu à Colmar. Il y a un tract qu'on peut choper sur Internet et qui est lié... au procès qui est lié contre les faucheurs OGM, qui a lieu donc fin septembre, et dans lequel ils expliquent pourquoi ils ont mené cette action. Donc ils expliquent que le 15 août 2010, 60 faucheuses et faucheurs volontaires venus de toute la France ont procédé à l'arrachage de 70 pieds de vigne OGM à l'INRA de Colmar, donc appartenant à l'INRA, hein, qui est l'Institut National de Recherche Agronomique. Et c'était cette vigne OGM pratiquée en plein air, avait pour but de résister au cornoué. Peut-être qu'on pourra nous expliquer ce que c'est que le cornoué.
Cournoué.
Nous avons posé et revendiqué donc cet acte en conscience. Donc je continue à lire rapidement le tract. Il s'inscrit dans la continuité de notre lutte contre les OGM dans l'environnement, les champs et les assiettes. Nous sommes convoqués au tribunal de Colmar les 28, 29, 37 novembre 2011. Ce procès est pour nous celui des dérives de l'INRA, aux ordres de tutelle, ministère, sous la constante pression de firmes dont l'unique objectif est le profit. Donc voilà, ça vous donne un peu la teneur du tract. Donc Hervé Lemeur, donc président de OGM d'Angers, bonsoir.
Bonsoir.
À nouveau. Est-ce qu'on pourrait parler dans un premier temps de qu'est-ce que c'est qu'un OGM, comment on les construit ou comment on les produit, et quelles sont ses implications
Quelles sont leurs implications
Ou leurs implications,
ouais. Oui, éventuellement, Guillaume pourra aussi parler. Là, je trouve effectivement, on peut en parler. Je trouve même qu'avant de parler de quelque chose, c'est bien de commencer par une définition ou savoir de quoi on parle. C'est toujours plus pratique. Alors, je vais revenir à la définition. Là, c'est une définition qui n'est pas la mienne. C'est celle qui est définie donnée par la directive européenne qui essaie de décider des autorisations ou pas. Donc, elle commence par définir. Et un OGM est, je cite, « un organisme dont le patrimoine génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication, bref, etc., par croisement des plantes, qui ne s'effectue pas naturellement. » Donc, ceux qui nous disent bah, « c'est pareil que ce que la nature a toujours fait, on en a toujours fait », soit ils se trompent, soit ils mentent. Vous remarquerez que quand ce sont des chercheurs de l'INRA qui le disent, j'ai du mal à penser qu'ils se trompent. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, quand dans l'historique des biotechnologies, l'INRA fait remonter les biotechnologies à la fabrication du vin, on se demande un petit peu si c'est complètement honnête. Parce que vous comprenez, si jamais la fabrication du vin, on n'est pas contre. Aucun des faucheurs n'est contre. D'ailleurs, ils font même une bière, la bière des faucheurs, qu'ils vendent pour justement essayer de payer les frais et les amendes. Donc voilà, un OGM, c'est donc un organisme dont le patrimoine génétique a été modifié d'une manière non naturelle. Bon. Après, un exemple concret. Les scientifiques avaient déjà repéré il y a 70 ans qu'il y a une bactérie du sol dont, quand on l'écrase, elle a un effet insecticide. Et en plus, elle cible certains types d'insectes. Bon, donc il y a des scientifiques après qui se sont dit, tiens, si on récupère la protéine qui donne cet effet insecticide à la bactérie, qui est naturel dans la Terre, hein. Il y en a naturellement dans la Terre. Donc si on récupère le gène associé à ça, on le met dans le maïs. Bah, le maïs, en grandissant, il va fabriquer l'insecticide, qui est naturel. Je ne dis pas qu'il va le fabriquer naturellement. Hein. Je dis que l'insecticide est naturel si on suppose que c'est le même que celui de la bactérie. Parce qu'on pourra discuter, mais
des équivalences,
on va dégrossir. Donc, si on prend le gène en question de la bactérie qu'on le met dans le maïs, en grandissant, va produire l'insecticide ou émettre l'insecticide ou synthétiser l'insecticide. Et du coup, ça veut dire que la plante, le paysan n'aura plus besoin de mettre d'insecticide. Bon, et donc, on polluera moins.
Oui, ça, c'est l'argument. Ça, c'est l'argument. Non, mais,
oui. Non, mais justement, moi, j'essaie de me faire un peu, d'être un peu contradictoire. Donc là, je viens de vous convaincre, d'essayer de vous convaincre que les OGM polluaient moins. Est-ce que ça vous semble?
Ah non, mais moi, là, tu me présentes le discours qu'on
nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu y réponds?
Ah, mais moi, je sais pas. Moi je suis agnostique sur la question, étant donné que je suis pas scientifique. Mais,
mais est-ce qu'il faut être scientifique?
Moi, je rajouterais peut-être une question. On parle d'une définition des OGM de naturalité. Mais concrètement, techniquement, comment est-ce qu'on produit un OGM et comment est-ce qu'on transforme son patrimoine génétique?
Oui, alors, si vous voulez bien la garder pour un petit peu après, je vais essayer de répondre et dire en quoi l'argument que je viens de dire, qu'on entend souvent, hein, un scientifique de base va vous dire ça, mais c'est bien de lui faire dire déjà, avant de lui dire pourquoi il se trompe, c'est que quand on insère le gène dans la plante synthétise l'insecticide. Jusque-là, c'est globalement vrai, on ne va pas argumenter sur des détails. Après, ça veut dire que le paysan n'a pas besoin de mettre d'insecticide. On va comparer des choses comparables. C'est-à-dire que j'imagine un coton, n'importe quoi, mais sur lequel on pourrait mettre le même insecticide, la bactérie, comparé au coton OGM dans lequel le coton produit lui-même son insecticide. Effectivement, le paysan n'a pas besoin de mettre d'insecticide. Est-ce qu'on peut en déduire qu'on pollue moins? Ben non. La seule vraie question, c'est quelle quantité la plante OGM fabrique d'insecticides. Et ça, c'est marrant, aucun des chercheurs, des entreprises ne se sont posé cette question. Bon, vous comprenez qu'on ne peut pas leur vouloir, leur but c'est d'en vendre après tout. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que les chercheurs du secteur public n'ont pas non plus la réponse. La question est compliquée en fait, elle peut sembler simple comme ça, elle est effectivement compliquée. Mais aucun chercheur du secteur public n'a proposé de réponse. J'ai juste quelques articles scientifiques qui évaluent entre 2000 et 100 000 fois plus, selon le protocole, la quantité d'insecticides. Donc loin de polluer moins, ça pollue plus. Je reviens maintenant à votre question. Comment on les fabrique? Alors, il y a en fait plusieurs façons. Je vais vous dire la façon la plus courante encore il y a 5 ans. Oui. En ce moment, on est en train d'un peu de changer. C'est que, en fait, une fois qu'on a isolé le gène qu'on veut insérer, on lui accole un autre gène, un gène de résistance à un antibiotique. On les met ensemble. Alors, on les met ensemble, c'est compliqué. Hein, bon, je vous passe les petits détails. Après, ce morceau d'ADN-là, on le met dans un morceau en boucle d'ADN. Ce morceau en boucle d'ADN, on l'insère de force dans une bactérie, Escherichia coli, la fameuse, vous savez, celle qu'on a tous dans les intestins, parce qu'elle nous aide à vivre, à digérer. Hein. Sans elle, on ne pourrait pas vivre. Bon, c'est un vrai cas de symbiose. Et donc, une fois qu'on a mis ce petit morceau d'ADN en boucle, qu'on appelle un plasmide, dans la bactérie, on fait se multiplier la bactérie, et puis après, on se débrouille pour récupérer l'ADN en boucle. Puis après, on essaie de récupérer essentiellement les morceaux d'ADN qu'on voulait. Essentiellement. Mais vous voyez que là, c'est un peu flottant. Hein. C'est pas une science exacte. Hein. Et après, une fois qu'on a une solution dans laquelle on a tous ces morceaux d'ADN, on embadigeonne des petites billes sur un petit pistolet à microbilles, billes de tungstène, et on bombarde des cellules en espérant que cet ADN-là va s'insérer au moins une fois, quoi, ou une cinquantaine de fois, on ne sait pas, quelque part. C'est ça, l'insertion précise dont on nous rebat les oreilles. Alors moi, j'hallucine. J'ai retiré à chevrotine pour dire, voilà, c'est une insertion précise. Et le pire, c'est que les scientifiques osent comparer cela avec les paysans dont ils disent qu'autrefois, ils mélangeaient des centaines de milliers de gènes. Les paysans n'ont jamais mélangé des gènes. Ils ont fait se croiser des organismes. Ça n'a rien à voir.
Très bien. Hervé, je suis obligé un peu de couper parce que je vois qu'on est déjà à 20h45. Est-ce qu'on pourrait éventuellement entendre Guillaume Decroux qui aurait peut-être des choses à ajouter sur... la constitution d'un OGM, hein, peut-être.
En substance, les explications d'Hervé sont assez claires pour moi. Juste peut-être préciser aux auditeurs que pour que le gène modifié, enfin qu'on insère dans une cellule de plante, pour ne reprendre que l'exemple du maïs que lui a cité, on ne peut pas l'insérer tel quel. On est obligé de le... En fait, on n'introduit pas le gène, la copie conforme du gène d'origine. On fait une CGA, construction génétique artificielle, ce qui veut dire qu'en fait, le résultat final, c'est-à-dire bon, quand si vous vous comparez la protéine générée par gène dans l'organisme donneur, c'est-à-dire d'origine, ça donne quelque chose. Et en fait, le fait d'avoir modifié ce gène pour pouvoir l'insérer dans le maïs, en fait, ça donne autre chose. Et nous, on essaie de le mettre en avant aussi parce qu'au final, alors que, par exemple, pour ne reprendre que l'exemple de ce maïs BT qui a tant fait la une des médias pendant pas mal de temps au travers des actions des faucheurs volontaires notamment, mais j'y reviendrai plus tard. Il faut savoir que le BT qu'on utilise en bio, c'est aussi un des arguments qu'emploient les promoteurs des OGM. Ce BT qu'on utilise aussi en agriculture biologique, qui est issu directement de ce champignon, la Bacillus thuringiensis, quand on prend ce gène de champignon et qu'on l'insère dans le maïs, en fait, le BT n'est pas le même et il tue d'autres insectes que celui qui était ciblé au départ. Donc voilà, nous, ça nous pose des problèmes. Et après, au-delà de ça, effectivement, une fois qu'on a planté du maïs partout qui tue tous les insectes, on sait très bien que la nature va arriver à se défendre et que ça y est, c'est tombé il y a quelques semaines sur l'Internet. Monsanto commence, même Monsanto commence à le reconnaître, c'est-à-dire qu'on a des insectes qui se sont adaptés, qui donc arrivent à survivre malgré la modification génétique du maïs qui est censé le tuer. Donc c'est le seul qui vit, c'est le seul qui reproduit, et on sait très bien que la nature après va très très vite et qu'il va rester que des insectes résistants. Donc ce n'est absolument pas, l'OGM de manière générale n'est absolument pas une solution à long terme. C'est voir pas plus loin que le bout de son nez de mettre ça partout et d'en faire la promotion. Voilà.
Guillaume, j'ai une question à te poser justement quand tu dis que l'OGM n'est pas une solution à long terme. Donc là, en fait, tu viens de décrire, on pourrait dire, des risques environnementaux hein, et de transformation de l'environnement. Mais est-ce que à la base des anti-OGM, et je m'excuse du qualificatif, mais c'est pour faire simple, est-ce que il y a d'autres raisons autres que les risques environnementaux au fait de ne pas en vouloir, de ne pas en vouloir dans nos champs, dans les assiettes, etc., etc. Par exemple, je pensais au droit de propriété, la question des droits de propriété.
En fait, les OGM cristallisent un petit peu toutes les dérives du monde libéral. C'est-à-dire qu'on est dans l'apprenti sorcier absolument vouloir mettre ça dehors alors qu'on ne maîtrise pas toutes les conséquences environnementales, on vient d'en parler. Mais ça ne s'arrête pas à ça. C'est aussi le brevetage du vivant. Il faut savoir que contractuellement, un paysan qui plante des OGM n'a pas le droit de les ressemer l'année suivante. Contrairement à une idée reçue, l'OGM n'est pas stérile. À une époque, ils ont voulu imposer en plus une modification génétique qui rendait la graine stérile. Enfin, elle poussait et la graine issue de cette plante OGM était stérile. C'était le fameux gène Terminator. Bon, ça, finalement, il y a une telle levée de bouclier que ça a été abandonné. Ça ne veut pas dire que c'est complètement abandonné, ils reviennent à la charge régulièrement. Donc là, on est sur une notion qu'on appelle le brevetage du vivant. Et je voudrais vraiment appuyer là-dessus parce que le brevetage du vivant, c'est ce qui motive les semenciers et tous les gros types Monsanto, pour ne parler qu'eux, mais il y a aussi Pionnier. En France, on a le quatrième semencier mondial, on a l'Imagrin, il faut le savoir, et qui a aussi fait des OGM en nous plantant, par exemple, du maïs avec des gènes de chien à côté de Clermont-Ferrand, qu'on a aussi fauché. Mais laissons ça de côté. Donc ce brevetage du vivant ne s'arrête pas aux plantes. C'est très important de l'entendre parce que en fait, il y a déjà des gènes humains aussi qui sont brevetés, il faut le savoir, et notamment des gènes de femmes. Donc toute cette dynamique du brevetage du vivant, donc elle s'adresse à l'humain et en l'occurrence là dans ce cas concret, c'est une société américaine qui a breveté deux gènes de femmes qui sont des gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Alors qu'est-ce que ça amène concrètement ça ? Et après je reviendrai sur la plante. Ça amène concrètement qu'aujourd'hui cette société, enfin hier plutôt parce que ça date déjà d'une dizaine d'années, elle demandait l'exclusivité des tests de dépistage. Donc une femme française allait faire un test de dépistage avec une simple prise de sang et en principe, au regard de ce brevet déposé sur ses gènes, qui en principe brevetent une invention et non pas une découverte, même là on marche sur la tête. Donc cette société américaine demandait que les échantillons sanguins lui soient expédiés et elle aurait renvoyé les résultats. Ayant l'exclusivité, le test coûtait très très cher. On était aux environ 3 000 $. Au final, qui paye ? La sécurité sociale, donc finalement le citoyen. Donc voilà une dérive du brevetage du vivant qu'on peut plaquer sur l'homme et qui, ramené au domaine de l'agriculture, eh ben, ça finit par une interdiction pour le paysan de ressemer une graine issue de la récolte précédente. Vous voyez un peu le danger. Alors quand on nous dit que les OGM vont nourrir le monde, déjà, faut savoir que la quasi-intégralité, on va dire aux environs de 80% des OGM qui sont plantés, c'est-à-dire maïs, colza, soja, servent à nourrir les vaches, les cochons, les porcs, les poulets des pays occidentaux, parce qu'on mange trop de viande. Ça, c'est aussi un effort que le citoyen doit faire en mangeant moins. Tout ça, c'est une globalité. Et à chaque fois qu'on va revenir sur la problématique OGM, on va arriver à trouver toutes les dérives de ce monde libéral. Donc brevetage du vivant, conséquences environnementales, enfin voilà, c'est vraiment tout ce dont on alerte depuis maintenant une quinzaine d'années, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas les faucheurs volontaires qui ont commencé à faucher, c'est tout simplement les paysans. Les paysans commencent à faucher à fin des années 90. Ça commençait avec de la betterave, il y a eu du colza dans la région de Lyon, la betterave c'était dans le nord, et ils n'arrivaient pas à faire, entre guillemets, péter ce truc médiatiquement parlant.
Oui, excuse-moi Guillaume, en fait j'ai l'impression qu'on avance un tout petit peu trop vite dans le... ça sera un peu plus sur la fin, et je me permets de te couper, je suis désolé, en plus on peut pas échanger, mais je crois que Anne a des questions à poser à Hervé.
Vas-y,
Anne.
Oui, Hervé, c'était peut-être sur les implications que vous trouvez au niveau des OGM, ou tout du moins des enjeux qui sont aussi politiques et éthiques, quels sont pour vous ces enjeux ?
Alors moi, l'enjeu juridique a été très bien décrit par Guillaume, que je connais et que je resalue au passage. Non, la question juridique des brevets sur le vivant, c'est affreux. Se dire qu'on puisse avoir des brevets sur les cellules du cordon ombilical des enfants, moi je trouve ça scandaleux, même si c'était que aux États-Unis. Donc il y a la question juridique des brevets. Il y a d'autres questions qui sont ce qu'a un peu abordé Guillaume, à savoir le fait qu'avec les OGM, on continue dans la direction de la perte d'autonomie des paysans. Alors nous, en France, on a peut-être un petit peu abandonné, à mon avis, un petit peu trop vite l'autonomie des paysans. En tout cas, il y a des syndicats paysans qui la défendent encore, et puis il y a des citoyens qui la défendent aussi. Mais dans les pays du Sud, c'est encore plus grave, parce que l'autonomie des paysans, c'est la liberté politique, en fait. Parce que vous comprenez que si jamais un pays a besoin d'un autre pays ou d'une entreprise d'un autre pays ou des semences d'une université d'un autre pays pour manger... Bah, c'est sûr que là, ils feront ce qu'on veut. Hein. Il y a d'ailleurs une déléguée des États-Unis au Congrès des femmes en 1995, Madame Martini, qui avait dit « Oui, l'alimentation est un pouvoir, et oui, nous l'utilisons. » C'est clair.
Est-ce qu'on veut parler deux secondes d'OGM Danger ? Enfin, ça consiste en quoi, cet assaut ? Comment ça s'est construit ? Est-ce qu'on y retrouve que des faucheurs ou autre chose, des anti-OGM ? Enfin, comment ça se...
Ah oui, il n'y a que des opposants aux OGM. Mmh. Hein, dans OGM Danger, c'est avec un S. C'est avec un S parce qu'on prétend que c'est multiforme. Nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que les OGM posent des questions sur les risques alimentaires, oui, mais qui sont compliqués, qui sont un sujet très technique. Il y a des questions environnementales, si jamais on dissémine un gène de résistance à un herbicide, qu'est-ce qui va se passer ? Des questions agricoles, de liberté des paysans de conserver leurs semences et d'en faire ce qu'ils veulent. De ce qu'ils veulent, hein. Même s'ils en font des erreurs, tant pis, c'est leur vie. Ça fait 11 000 ans qu'ils ont travaillé les semences, donc on va essayer de leur faire confiance encore pendant quelques dizaines d'années au moins, non ?
Et en France, il y a déjà des champs qui ont été contaminés. On a des données là-dessus sur des agriculteurs qui ont été contaminés. Ouais.
Oui, mais en fait, assez peu. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y en a vraiment extrêmement peu. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important. C'est justement tant qu'il n'y en a pas trop qu'il faut se battre. Hein. Mais il y a eu déjà des contaminations. Mais les contaminations, le problème est qu'on croit trop qu'elles ne viennent que par le pollen ou par les croisements entre plantes. Le problème, c'est que quand vous faites une récolte d'un champ de colza, vous en mettez à peu près autant que votre récolte sur le trajet pour apporter le camion. Vous en laissez aussi dans le camion, vous en laissez dans le silo, vous en laissez dans plein d'endroits. Donc les mélanges, c'est un peu intrinsèque. Et ça a toujours été un facteur de vie. Il y a juste que là, il s'agit de mettre des choses qui donnent une pression de sélection qui déséquilibre en fait les écosystèmes. Une pression de sélection qui va faire qu'une plante résiste à un herbicide, c'est une vraie catastrophe. Parce qu'après, vous faites quoi ? Supposons qu'au début, comme l'a dit très bien Guillaume, peut-être qu'au début, ce serait bien, pour certains surtout. Hein. Mais ça veut dire qu'à moyen terme, on ne pourra plus utiliser un herbicide, on ne pourra plus utiliser l'insecticide, selon l'exemple qu'a décrit Guillaume. Donc, c'est pour ça que si on veut faire une agriculture durable, il faut qu'il y ait zéro OGM dans toute l'agriculture et toute l'alimentation.
Et justement, comment est-ce qu'avec votre association, vous luttez contre les OGM ?
Eh bien, de plusieurs façons. La première, déjà, c'est d'essayer d'avoir un discours qui soit suffisamment construit pour que 5 ans après, il puisse tenir encore la route. Et puis c'est vrai qu'on a fait quelques auditions parlementaires, mais je vous avouerai que j'ai pas eu beaucoup de retours. Pourtant on a donné des arguments, mais j'ai un peu eu l'impression que ça avait un effet je veux pas être trop vulgaire, mais qu'on était un peu là pour la décoration, quoi. Par exemple, une fois au conseiller communiqué social, j'ai parlé des questions philosophiques qui se posaient derrière les OGM. Et puis il y avait des lycéens qui étaient là et ils étaient revenus en disant: oui, dites, vous avez pas répondu aux questions de monsieur Le Meur. Et l'intervenant qui était là a dit, écoutez, oui, mais vous comprenez, l'éthique, j'avais pas parlé d'éthique, j'avais parlé de philosophie, mais bon, l'éthique, vous savez, ça dépend des gens. Donc comme c'est pour tout le monde différent, on peut pas en faire grand-chose. Et voilà, comme quoi on arrive à tuer un débat.
On va passer une musique pour faire une petite pause musicale et ensuite on va reprendre. J'espère qu'on a pensé avoir eu le temps de donner pas mal d'informations et ensuite on va parler du fauchage et précisément du fauchage à Colmar. Merci.
Ce matin, la plus jolie des fleurs a éclos dans mon jardin. Quel bonheur! Depuis le temps qu'il ne poussait que du chien-dent, ou bien quelques mauvaises herbes de temps en temps. Je voudrais bien te cueillir, tu vois, mais alors tu faneras entre mes doigts. Car jamais on n'a cueilli une fleur sauvage, douce, fragile et légère comme un nuage. C'est une fleur des champs, libre comme le vent. C'est une fleur des champs, une fleur du printemps. Une fleur des prés, une fleur des prés. Mais on ne se saisit d'une fleur sauvage. Dans un pot, elle est comme un oiseau en cage. Alors je me suis assis près de mon ami et j'ai décidé de rester là pour la vie. Pour protéger celle que j'aimais contre tempête, vents et marées. C'est une fleur des champs, libre comme le vent. C'est une fleur des champs, une fleur du printemps. Une fleur des prés.
Après ce bel interlude musical, moi j'ai une petite question pour Guillaume, à savoir justement au niveau des moyens d'action contre les OGM, on entend parler du fauchage, mais concrètement, exactement, c'est quoi le fauchage et ça vient d'où ?
Donc le fauchage, bah, c'est un moyen d'action qui s'inscrit directement dans la dynamique de désobéissance civique non violente. Inspiré par des gens comme Thoreau, il y a pas mal de temps et tout ça. Et donc, ce sont les faucheurs volontaires se sont inscrits dans cette dynamique-là pour arriver à mettre au devant de la scène médiatique et citoyenne une problématique que les paysans n'arrivaient pas à dénoncer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Dans les années, un petit peu après le milieu des années 90, ils ont commencé à faucher, mais ils n'arrivaient pas à vraiment ramener ce débat de société à la place où il devait être, au regard des dangers que dont on a commencé à évoquer en début d'émission, tout ce qui arrivait, donc l'interdiction de replanter, l'adaptation de la nature par rapport à des soi-disant parades type résistantes à des herbicides et tout ça. Et donc les paysans, à force de faucher, de pas être entendus, dans ce réseau-là, il y a quelqu'un un jour qui se prénomme Jean-Baptiste Libouban, qui a dit je crois qu'il va falloir passer à une vitesse supérieure et puis demander aux citoyens d'accompagner les paysans dans cette lutte pour dénoncer ce problème. Et ce Jean-Baptiste en question, c'est le rassemblement du plateau du Larzac en 2003, a mis une table, une banderole, faucheurs volontaires, voilà ce que c'est que les OGM, voilà les problèmes que ça pose. Inscrivez-vous et vous serez contacté au moment où il faudra passer à l'action.
Oui, j'avais une autre question avant que tu remontes comme ça encore là dans les années 2000. Ouais. Est-ce qu'on peut faire justement un parallèle finalement entre les ludites en Angleterre au 19e siècle qui se mettent à briser les machines en plein moment de la révolution industrielle Les faucheurs d'OGM.
Sur le moyen d'action, je suis pas sûr que ce soit. Ça s'inscrit un peu dans la même dynamique. Maintenant, les ludites cassaient. L'outil de travail, mais c'était... Ouais, quelque part, ça, on est un petit peu dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on est dans le symbole d'une oppression, les OGM pour les anti-OGM et les faucheurs, et puis les machines qui sont donc le symbole d'une espèce de forme de libéralisme et d'esclavage qu'il faut absolument stigmatiser, là. Et là, c'est en les fauchant d'un côté ou en les cassant de l'autre, ouais, effectivement, ouais. Le parallèle est intéressant. Maintenant, il demanderait certainement être approfondi.
Et tu peux reprendre donc sur, excuse-moi, je t'avais coupé un peu abruptement, mais reprendre justement là sur l'histoire donc du fauchage là dans les années 2000, hein, comment se sont organisés des collectifs.
Pose sa table au rassemblement du Larzac, il a quelques centaines d'inscriptions, et en 2004, les faucheurs volontaires annoncent publiquement leur premier rassemblement. C'était à côté de Toulouse, dans une commune qui s'appelle Verdun-sur-Garonne, et annoncent un passage à l'action le lendemain. Et effectivement, ça a eu lieu. On était 1000 au bas mot, voire pas loin de 1500 pour cette première action. Donc, quelques forces de l'ordre en face. Le champ a été plié en deux temps, trois mouvements. Et ça, au regard en plus de la présence de nombreuses personnes médiatiques. Alors, il y avait évidemment José Bové, qui est le plus connu, mais il y avait aussi Noël Mamère, qu'on connaît tous. Il y avait Gérard Renesta, qui était député européen à l'époque. Je ne sais plus s'il l'est encore. Enfin voilà, toute une série de personnes comme ça, et ça a vraiment été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres de la question OGM, en tout cas dans la démocratie.
Super, merci pour ton intervention. Est-ce que Hervé, tu as des choses à ajouter ?
Oui, j'aimerais bien ajouter, alors Guillaume pourra me le confirmer, lui en tant que faucheur, qu'un faucheur, c'est pas quelqu'un qui vient un jour de colère et puis qui vient, il casse un champ. Non, il y a une démarche collective, il y a une démarche dans laquelle chacun essaie de s'assurer que c'est bien un champ d'OGM, premier point. Deuxième point, on collecte les identités qui vont venir et on les communique à la police. C'est-à-dire que c'est pas un truc à la va-vite où on se cache, on a moitié honte. Non, c'est un acte délibéré, conscient, dont je prétends, moi il me semble que les faucheurs disent bien, on a conscience que c'est illégal, mais on prétend que c'est légitime. Est-ce que Guillaume partage bien cette analyse ?
Oui, tout à fait. Effectivement, la dynamique des faucheurs volontaires, donc au-delà de la désobéissance civique non violente, elle se fait à visage découvert. Et par exemple, pour reprendre que cette action qui a eu lieu en 2004 contre un maïs, effectivement, de la marque Pionnier à l'époque, si ma mémoire est bonne, mais je pense qu'elle est bonne, faut savoir qu'il y a eu un procès qui a suivi. Or, pour 1500 personnes qui se sont retrouvées dans le champ, on a eu 9 prévenus. Donc les faucheurs volontaires ont dit c'est absolument anormal et ont écrit ou se sont manifestés, et c'est de là qu'est venu le principe des comparants volontaires notamment, en disant mais pourquoi il n'y aurait que 9 personnes, on était là aussi, on assume notre acte, nous l'avons posé en conscience, nous voulons être jugés au même titre que les autres. Et nous, ça nous offre un tremplin pour sensibiliser la population à ce problème qui quand même touche l'alimentation. Dire on n'est pas sur des télévisions, sur des clés MP3 là. Dire il y a quelques besoins physiologiques pour vivre, c'est manger, dormir, boire. Enfin voilà. Et là, on s'attaque directement à la bouffe, quoi. C'est quand même quelque chose d'important. Donc on voulait que le citoyen se saisisse de ça. Et globalement, de toute façon, les faucheurs volontaires, quand même, ont une cote de sympathie dans la population française, parce que de toute façon, que ce soit du Figaro à l'Humanité qui fasse un sondage sur où en sont les OGM, est-ce que vous en voulez en France, globalement, tous les sondages, ils se ressemblent. Donc, on est entre, allez, un petit minimum de 70% de gens qui n'en veulent pas. Donc, voilà. Nous on n'est pas des redresseurs de tort. C'est justement, on voulait dénoncer quelque chose que les semenciers mondiaux, là, les agro-businessmen, essaient de faire passer sous le tapis en nous vantant monts et merveilles. On va nourrir le monde et on mettra moins de produits. Ce qui est du mensonge du début à la fin. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous, depuis 10 ans, on alerte les politiques. Parce que les faucheurs ne font pas que faucher, hein. Ils vont rencontrer les institutions, ils font des conférences débats, voilà, c'est aussi il y a un temps citoyen important. Après, l'été, effectivement, c'est l'action. Si vous voulez, je pourrais vous en parler sur effectivement les méthodologies de recherche qu'on a eues à une époque pour trouver ces champs OGM. Mais donc, c'est vraiment important.
Et justement, Guillaume, je me permets d'interrompre, pour avoir une petite idée de l'impact de ces actions et de l'évolution à la fois des fauchages par rapport à la situation française des OGM, quelle a été l'évolution des OGM en France ? Et parallèlement, qu'est-ce que les actions de fauchage et puis toutes les actions connexes, en fait, ont permis de faire par rapport à cette situation ?
C'est pas très compliqué. En 2006, il y aurait eu environ 5000 hectares d'OGM en France. En 2007, 25000 hectares. Alors je voudrais rassurer la population française, quand vous avez parlé de pollinisation tout à l'heure et de pollution, 25000 hectares, ça représentait en tout et pour tout 0,73% des surfaces totales de maïs plantées en France métropolitaine. Donc le combat n'a jamais été perdu. Et nous, on y a toujours cru. Il a tellement jamais été perdu, et là je vais répondre directement à ta question, Anne, c'est que aujourd'hui, la seule plante OGM qui était autorisée à l'époque, maintenant il y en a une seconde, c'est une patate, bon, peut-être qu'on y viendra après. Le seul plante OGM qui était autorisée encore en 2008, c'était le maïs. Aujourd'hui, il est interdit en France. Le dernier pays qui en plante encore de façon un petit peu intensive, c'est l'Espagne, avec 60 à 80 000 hectares sur les 200 000 au total. Et là, on va revenir sur les pollinisations. Je n'ai pas coupé Hervé tout à l'heure, mais il faut savoir que dans la région où ce maïs OGM est planté en Espagne, donc aux alentours de Barcelone, la quasi-intégralité des bio ont dû fermer boutique. Ils ne peuvent plus en planter parce qu'ils ont tous été contaminés. Or, le cahier des charges d'un bio est très précis, c'est pas d'OGM dans la récolte. Donc voilà, et on est même là, on n'est pas sur un même pied d'égalité, parce que si le gars qui plante des OGM, il est pollinisé par du bio, il s'en fout, lui, il vendra sa récolte pareil. Ça ne changera pas le prix de vente, alors que le bio ne pourra plus le vendre au prix, il sera déclassé, voire invendable. Et en France, vous parlez de pollinisation, savoir que quand même qu'on a eu, alors c'était pas du maïs, c'était du soja, on a un paysan français, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h autour d'Agen, qui a dû, alors c'est très bizarre parce que lui ne savait pas qu'il avait été contaminé, alors c'était une contamination à la semence directe, c'est-à-dire que c'est pas pour pollinisation, quand il a acheté sa semence bio, en fait il y avait des graines OGM à l'intérieur. Il a fait sa récolte, il a vendu une coopérative, c'est reparti en Allemagne pour transformer, et c'est en Allemagne que c'est l'équivalent de la concurrence et la répression des fraudes allemandes qui a trouvé la contamination et la boîte allemande a fermé.
On importe quand même, par contre.
Pour se battre et récupérer son droit et faire reconnaître qu'il avait été contaminé.
On importe quand même beaucoup de soja OGM encore d'Argentine.
Alors, ça c'est un autre aspect des choses, effectivement. C'est que. À la sortie de la guerre, il y a eu des accords entre, en gros, l'Europe et les US avec, effectivement, en gros, l'Europe n'a pas le droit de produire ses propres protéines. Elle a un seuil, mais il est tellement minime qu'on est obligé d'importer. Et on importe d'Amérique. Et effectivement, là-bas, l'immense majorité des champs de colza, et surtout principalement de soja. Donc, encore une fois, je le répète, qui servent à nourrir les vaches, les veaux, les cochons et les poulets des panses occidentales, c'est malheureusement de l'OGM. Mais les faucheurs agissent aussi sur ce point-là. On en est déjà à 4 ports de bloqués pendant au moins une journée, avec rendez-vous ensuite avec nos institutionnels. La DGL, par exemple, Direction Générale de l'Alimentation, qui est censée assurer la sécurité de l'assiette, du champ à l'assiette. Et nous, on met en avant le fait que c'est quand même une ineptie d'interdire les OGM à la culture et pourtant de continuer à en importer. Donc on demande à ce que la France, et même plus haut, parce que l'Europe, s'inscrive dans une dynamique d'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'on puisse se mettre à produire nous-mêmes nos protéines et qu'on soit plus obligé de les importer.
Je te coupe un peu, je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, la question des OGM devient vraiment un outil assez puissant pour remettre en cause l'agriculture biologique.
Industrielle.
Non, mais l'agriculture.
Ah oui, pour les autres, d'accord.
Ouais, moi, je m'intéresse. Ouais, je parlais de l'agriculture biologique et c'est vrai que ça devient dramatique si à un moment donné, les cultures OGM peuvent contaminer l'agriculture bio et donc remettre en cause un autre mode de production et de culture. Est-ce que tu as des choses à ajouter
Moi, je ne pourrais que réappuyer et redire ce qu'a dit Guillaume, à savoir que l'agriculture transgénique est hégémonique. C'est-à-dire, si jamais on en tolère un, elle ne vous tolère pas, alors que le bio, lui, est tolérant. Si quelqu'un veut faire du non-bio à côté, et voilà. Et ce qui est incroyable, c'est quand dans les conférences sur les OGM, par exemple, on me dit « Oui, mais les bio, ils sont pollués aussi. » Attendez, il y a quelqu'un qui est une victime Et parce qu'il est victime, on le met au même niveau que le coupable. Mmh. Non, je comprends même pas cet argument. J'ai envie de les défendre justement parce qu'ils sont pollués, parce qu'ils font des efforts. Et on ne devra quand même pas leur en vouloir de faire des efforts, de prendre des risques. C'est quand même merveilleux dans notre monde. Hein.
Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment terrible.
Ça aussi, juste par rapport à l'aspect que ça détruit le bio, les OGM. C'est pas un combat juste pour garder le bio de bobo, machin, qu'on peut entendre. L'intégralité des filières n'ont pas le droit aux OGM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le bio. Le maïs waxy, qui est riche en amidon, qui sert à fabriquer des préparations alimentaires type pot pour bébé ou soupe toute prête, voilà, tout ça, ils n'ont pas le droit non plus aux OGM. Donc, c'est-à-dire que l'implantation de l'autorisation d'un OGM remet en question l'intégralité des autres filières hors OGM de l'agriculture de la plante donnée.
D'accord. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Hervé, sur...
Je voudrais ajouter un petit complément et revenir un peu à la question des enjeux. Tout à l'heure, Guillaume a dit on s'attaque à la bouffe. Mais je voudrais rajouter autre chose, c'est qu'on s'attaque aussi à la place de la nature. J'ai osé le dire parce que c'est un mot qui semble odieux parce qu'on ne sait pas le définir. Tant pis, je ne vais même pas me risquer à essayer de le définir. Quelque part, si on peut bidouiller le vivant, moi, ça m'a toujours choqué parce que je ne vois pas pourquoi, si on peut bidouiller toutes les plantes et tous les animaux, on pourra un jour oser se défendre contre le bidouillage des humains. Et ne rigolez pas, il y a quelqu'un qui est un député.
Je rigole pas.
Non, d'ailleurs, je me doute. Mais il y a quelqu'un qui est un député qui a fait un livre intitulé « La dernière transgression de point l'homme génétiquement modifié ». Député, hein ?
Bien sûr.
Monsieur Debré.
Déjà des sportifs génétiquement modifiés pour qu'ils génèrent de l'EPO tout seul. Enfin, voilà. On ne sait plus où on s'arrête de toute façon. À partir du moment où il y a brevetage, il y a rémunération derrière, il y a brevet, il y a machin, il y a point de PIB. Et puis voilà, c'est une logique, nous, qu'on dénonce. Et nous, on aimerait que la recherche, parce que c'est aussi ça, il y a un amalgame aussi des pro-OGM qui mettent toujours en avant. Oui, mais grâce aux OGM, on fait des médicaments. Alors je voudrais juste faire une toute petite parenthèse, parce que cet argument m'exaspère, mais au possible, je voudrais dire à tous les auditeurs que, effectivement, ça fait 20 ans qu'on fait de l'insuline avec des OGM en laboratoire. Donc déjà, c'est en laboratoire, c'est confiné. Ensuite, ce que les insulinodépendants, donc les diabétiques, consomment, ce n'est pas l'OGM, c'est la protéine insuline, donc hein, c'est une protéine qui est fabriquée par l'OGM. L'OGM est éclaté, il est tué, il est incinéré. On a extrait l'insuline, on l'a mis en ampoule, comme ça permet aux diabétiques de se soigner. Et bien là, vous voyez, il y a toujours cet amalgame encore qui revient, qui est récurrent, et on ment sciemment à la population française avec un argument médical pour arriver à mieux faire passer l'agroalimentaire à base d'OGM. Et ça, c'est un vrai scandale philosophique, démocratique, intellectuel, tout ce qu'on veut. Et ça, moi, c'est ce qui m'a poussé au champ aussi. Vous voyez, parce que à force de qu'on nous mente comme ça à ce point-là, avec la complicité de nos politiques qui autorisent ce genre de saloperie-là, eh ben moi, je vais au champ, je désobéis. Et là, eh ben, on en arrive donc à attaquer, effectivement, entre guillemets, attaquer la recherche française au travers du fauchage de vignes de Colmar. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est...
Oui, excuse-moi, je te coupe juste deux secondes, effectivement, parce que là, on arrive vraiment à la dernière partie de l'émission. Et effectivement, on va parler donc du fauchage d'OGM, de la culture de l'INRA là, à Colmar. Et donc, on aimerait un peu revenir sur ce qui s'est passé, pourquoi on a décidé précisément... De faire ce fauchage-là et on t'adresse à nouveau la parole. Vas-y.
Bah voilà, donc le 15 août l'année dernière, donc 2010, eh ben, on s'est levé très tôt et à 5h30 du matin, nous avons été effectivement neutralisés. Nous, on dit neutralisés parce qu'on pense que c'est même pas un risque. Tout à l'heure, tu employais le mot de risque. Le risque, c'est quelque chose de potentiel. Le danger, c'est avéré. Et nous, on pense que c'est un danger. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, depuis 10 ans, tout ce dont on alerte au niveau des dérives de ça, elles arrivent aujourd'hui. Donc, on a neutralisé effectivement 70 pieds de vigne. Alors, c'était les porte-greffes qui étaient OGM. Hein, vous savez un peu comment fonctionne la vigne. On a des porte-greffes et par-dessus, on vient greffer le cépage qui nous intéresse. Or, de toute façon, l'INRA admet aussi que la modification génétique passe au greffon et ne se contente pas de rester dans le porte-greffe. Donc voilà, nous avons neutralisé ces 70 pieds de vigne. Nous sommes restés, parce qu'en fait, ces 70 pieds de vigne étaient à l'intérieur de deux rangées de barrières, enfin de grillages assez élevés, surveillance caméra avec alarme connectée au commissariat. Mais de toute façon, il était décidé en amont que nous resterions sur place, que nous attendrions les forces de l'ordre et que nous donnerions tous nos noms. Donc c'est ce qui a été fait. Et voilà, donc ça a été mis sur, j'imagine, le bureau du procureur et le procès le 28, 29, 30 septembre, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine. Alors, quelle était la modification ?
Excuse-moi, Guillaume, juste une question. Peut-être que tu pourras revenir à ce que tu voulais dire il y a un instant. Mais justement, c'est qui les parties qui attaquent là, au procès ? C'est qui ? C'est l'État ? C'est l'INRA précisément ? Est-ce que tu peux nous dire exactement qui attaque qui et quels sont les arguments ? Enfin, quels sont les dommages ? Enfin, de quoi il parle ?
Bah, c'est évidemment l'INRA donc, qui porte plainte pour donc avoir détruit le fruit de la recherche, tout ça. Et donc, voilà, c'est l'INRA qui nous met au tribunal. Logiquement, on ne pouvait pas s'attendre à de toute façon autre chose. Il y a eu un autre essai par le passé qui a été fauché au tout début des années 2000. C'était un riz transgénique qui appartenait au CIRAD, qui est un autre organisme étroitement relié à l'INRA. C'était à Montpellier. Et donc voilà, donc c'est la deuxième fois en fait qu'une plante est fauchée, tout en sachant, pardon, excusez-moi, tout en sachant que ces pieds de vigne avaient été partiellement fauchés un an avant, en fait, par quelqu'un de façon isolée et qui a été condamné à une assez lourde amende. Si ma mémoire est bonne, on est à 50 000 euros en appel. Donc voilà, alors pourquoi on a fauché ces pieds de vigne-là ? Donc d'abord, la modification génétique qui a été mise en avant, qui était faite sur ce pied de vigne. C'est, les gens de l'INRA sont censés, moi je vais dire censés avoir vacciné cette vigne contre une maladie qui s'appelle le cournoué. Une vigne atteinte du cournoué peut effectivement dépérir, va donner des moins grosses grappes, tout ça, pour finir par mourir, et qui est transmise par un petit ver du sol qui est petit, hein, microscopique, s'appelle la nématode. Et donc, le fonctionnement du vivant fait que, si jamais ce nématode vit au contact des racines et transmet un virus en se nourrissant des racines. Et le fonctionnement du vivant fait que si jamais le virus, quand il pénètre dans la plante, il voit qu'il y a déjà un pote à lui qui est déjà passé par là, il ne va pas attaquer encore plus la vigne. Ça a des limites parce l'INRA a aussi prouvé qu'il y avait des recombinaisons de virus qui étaient encore plus virulentes dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que s'est dit l'INRA ? L'INRA a dit, on va prendre un bout du gène du virus et on va l'intégrer dans dans la vigne, dans le porte-greffe de la vigne. Toujours pour des questions techniques, cette vigne intégrait aussi un gène de résistance à un antibiotique qui s'appelle la canamycine. Alors, au-delà de toute cette technique, ça veut dire que l'INRA consacre des deniers publics à la recherche sur des OGM dont, globalement, les Français ne veulent pas. En plus, l'on touche au pinard. C'est quand même un truc culturel en France. Et l'INRA se targue d'avoir mis, tout au long de cet essai, un truc qui s'appelle le CLS, Comité Local de Suivi. Nous, ce qu'on dénonce, au travers du mode de fonctionnement même du CLS, elle a posé une question. C'est comment on va faire cet essai de vigne OGM ? Alors, on va prendre des sécurités, on va couper les fleurs pour pas que ça pollinise, on va mettre une bâche pour pas que ça passe au travers du sol, on va faire ceci, on va faire cela. Mais nous, on conteste cette démarche-là. C'est-à-dire que, d'abord, cet essai, il n'aurait jamais dû être dehors, parce qu'on n'en maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Ça, c'est la première chose. L'INRA le reconnaît, hein. De toute façon, personne ne maîtrise le vivant, et on sait très bien qu'il peut y avoir des dérives inattendues. Mais surtout, ce qu'on conteste, c'est que la question à poser, c'était pas comment on va faire cet essai, c'était est-ce qu'il faut faire cet essai OGM ? Et peut-être être un petit peu plus en relation avec la société civile, être en contact au lieu de sortir le nez des éprouvettes et d'aller voir les paysans sur le terrain. Parce que là, moi, vous voyez, on est en ligne, là, je suis dans un grand cru Saint-Émilion. On vient de finir les vendanges. Évidemment, Saint-Émilion bio. Il y a ça, pour moi, ça ne souffre aucun débat quant à la pertinence de ce mode de culture. Eh bien, ce viniculteur-là, ici, je lui ai demandé, t'as du cournoué ici, toi ? Il me dit, bien sûr que j'en ai. Je fais, alors c'est un problème ? Je fais, non, on vit avec. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis que ça pourrait ne pas l'être. Et, enfin, ça peut ne pas l'être, parce qu'il a appris aussi, ces gens maîtrisent la terre, connaissent bien, et savent très bien comment surveiller ça. Et au-delà, même si jamais ce cournoué devait s'étendre, il existe des méthodes qui font qu'il n'y a pas besoin de recourir aux OGM en plein air, pour lutter contre le cournoué. Voilà, on marche une fois sur la tête, on met la charrue avant les bœufs, il existe des plantes qui tuent ce ver, il y a des techniques agricoles qui font qu'il n'y a pas besoin d'avoir recours aux OGM pour lutter contre le cournoué, tout simplement.
Oui, moi aussi, je vais aller tout à fait dans ce sens-là, en fait. Je prétends même qu'il n'y a rien que les OGM prétendent faire, qu'on ne puisse faire autrement, à moindre coût, avec moins de risques et avec plus d'autonomie pour les paysans. Donc c'est pour ça que la question, De temps en temps, on nous dit parfois, oui, mais les OGM pourraient faire ça. La bonne question n'est pas celle-là. La bonne question, c'est si jamais je dispose de 100 euros ou de tant de chercheurs, je les consacre à quoi ? Est-ce que je les consacre aux OGM ou est-ce que je les consacre à autre chose ? Et ça, c'est une bonne question. C'est une question d'allocation de ressources. Je dispose d'un certain temps, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, oui, on pourrait donner plein d'exemples. Paul Cournouet, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Et finalement, si vous regardez d'un peu plus loin, vous apercevez que les OGM, c'est toujours la solution de type chimique, c'est-à-dire de type assez brutal, opposée à la solution biologique de type plus fine. Il faut, comme l'a dit Guillaume, il faut être là à suivre sa vigne, il faut être là à suivre les plantes, à les accompagner. Et le travail du paysan depuis le néolithique, c'est toujours d'accompagner la nature, d'essayer de l'infléchir, mais pas de la changer ex nihilo. C'est bien pour ça, encore une fois, que les OGM ne sont pas du registre de la nature. C'est qu'une modification génétique, elle opère a priori, alors que le paysan, il a toujours opéré a posteriori. C'est à partir de sa culture qu'il sélectionne plutôt tel type de grains, qui ont une meilleure panification, etc. Et donc, ce n'est pas la même vision du monde.
Et justement, par rapport à la recherche et à l'investissement de la recherche, comment vous voyez ça ?
Alors, comment vous voyez, ça veut dire quoi ?
En termes de quels sont les autres chemins possibles ?
Ah, mais des chemins, il y en a tout plein. Les chemins du possible, ouvre-moi tout le champ du possible, c'est Pindare. Oui, c'est pas facile à placer. Hein. mais non, des solutions alternatives, il y en a énormément. Encore une fois, la transgénèse, c'est toujours la solution finalement de facilité ou de la brutalité, de la force de notre société qui veut éradiquer toute discussion. Or, comme l'a dit aussi Guillaume, et comme je l'ai dit aussi, le principe, la vie, et c'est toujours de contourner. Avec les histoires de BT, donc ça c'est un insecticide dont j'ai décrit brièvement comment on pouvait faire. En gros, là, on a pris dans une bactérie du sol. Mais tant qu'on l'utilise en quantité comme le fait un paysan bio, vous n'allez pas avoir une apparition de résistance qui va se propager. Or là, on a commencé depuis quelques semaines à identifier des insectes, des chrysomèles en plus, qui sont capables de résister à l'insecticide de BT. Ça veut dire qu'à terme, même les bio n'en auront plus. C'est quand même extrêmement scandaleux. Vous voyez encore une fois le caractère hégémonique. C'est même pas d'une technique. C'est même pas d'un OGM particulier. C'est la technique en soi qui interdit à un autre de continuer de faire ce qu'il veut.
Et j'avais une autre question aussi par rapport à Colmar, justement. Est-ce qu'au niveau de cet essai, il y avait d'autres enjeux, peut-être plus sociaux, autour de l'histoire du Cournouet ?
Pas spécialement à ma connaissance, sauf si vous pensez à quelque chose de particulier.
Peut-être on peut poser la question à Guillaume. Oui,
ouais, tout à fait. C'est ce que met en avant l'INRA en disant 60% du vignoble français est atteint du Cournouet. Alors ça, c'est très facile parce que si déjà la parcelle-là, bio, Saint-Émilion, Grand Cru, dans laquelle je suis, pour deux pieds, l'intègre en entier dans les parcelles atteintes, ça me fait doucement rire. On est toujours pareil sur des finesses et des artifices de communication. Mais voilà, par rapport à la question précédente, il faut savoir que l'INRA a déjà un pied qui résiste au Cournouet. Et comment a été obtenu ce pied ? Par méthode classique. C'est-à-dire que la nature a accepté qu'un chercheur, effectivement, n'utilise pas la transgénèse, fasse des croisements de façon naturelle entre des vignes. Et aujourd'hui, la vigne s'appelle Nemadex. Ça fait des années qu'elle existe dans les laboratoires de l'INRA, encore Montpellier qui l'a mise au point. Donc, voilà, arrêtons de mettre ça dehors. Je veux dire, moi, je comprends qu'on veuille bien essayer de comprendre le fonctionnement du vivant, mais on le laisse dedans, on ne le soumet pas à brevet, même si ça devait marcher, parce qu'il faut savoir que l'INRA a quand même une structure privée qui est là pour aussi pouvoir déposer des brevets. Hein, je vais citer qu'un exemple, c'est l'INRA de la mer qui a déposé un brevet sur l'huître triploïde. Voilà, aujourd'hui, c'est cet organisme français qui s'appelle l'IFREMER qui a le brevet exclusif sur la triploïde. Donc on est bien déjà sur une démarche commerciale. Vous voyez, que ce soit un OGM ou pas la triploïde, je m'en fous presque. Mais on est bien déjà sur générer du profit avec du vivant à tout prix.
Et ça, oui, Guillaume, excuse-nous, on te coupe un peu parce qu'il ne nous reste plus que 4 minutes et on veut encore en donner un tout petit peu la parole à Hervé. Et grosso modo, en fait, qu'est-ce que vous avez ajouté qui n'a pas été dit pendant cette heure et qui vous semble très important ? Et on te repasse l'antenne après, Guillaume.
J'aurais énormément de choses à dire, bien sûr, mais moi, ce qui me semble intéressant avec les OGM, c'est que là, comme on a essayé de vous le justifier, finalement, ça marche même pas tellement, quoi. Ou alors, ça marchera peut-être dans longtemps, mais on sait, et pour un coût qui est énorme. Donc ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que ça fait fantasmer ? Ça, c'est une question qui est quand même un truc qui ne marche pas. Pourquoi on continue toujours dans le même sens ? Et je vais me faire un parallèle avec d'autres chercheurs qui ont un projet intitulé « Fabriquer la vie à partir de rien ». Et là aussi, il n'y a pas d'intérêt financier. J'ai envie de dire que bon, les multinationales, ce n'est pas que je les aime, mais je pense que le problème de nos sociétés n'est pas que celui des multinationales ni que de l'argent. C'est peut-être aussi, finalement, et peut-être d'abord, la volonté de puissance. Parce que là, les chercheurs qui travaillent à fabriquer la vie, au passage, c'est que des hommes. Hein, vous allez peut-être me dire que c'est par hasard. Moi, je ne crois pas. Je pense que là, le but, c'est vraiment de dire, de parachever le but que Descartes avait assigné à la science, à savoir se rendre comme maître et possesseur de la nature. Comme maître, c'est la transgenèse. Comme possesseur, c'est les brevets survivants. Et c'est là où on voit que finalement le but que Descartes avait assigné à la science, est-ce qu'il n'est pas attentatoire à la nature, à la vie finalement ?
Alors, une petite dernière question aussi pour Guillaume. Par rapport à Colmar, qui va arriver très très vite là, quelles sont les mobilisations possibles, les actions possibles, notamment pour nos auditeurs qui souhaiteraient vous soutenir ?
Ah ben, c'est pas compliqué. Bah, par exemple, une première action qui a lieu samedi, donc à Gaillac, c'est au nord-est de Toulouse. Il y a une vendange solidaire qui est organisée par un paysan viniculteur bio. Donc on vous invite tous à ce bon moment. Moi, je sors de vendange, c'était les premières de ma vie et en tout cas, c'était une très bonne ambiance. Donc venez vendanger avec nous. Les raisins récoltés vont servir à fabriquer du vin qui va nous aider à assumer financièrement le coût des avocats, le coût des amendes si on est condamné, mais nous, on croit en la relaxe. Enfin, voilà. Après, il y a un comité de soutien. Donc, il existe un site sur lequel les gens qui veulent en savoir un peu plus peuvent se rendre. Donc, c'est www.soutiencolmar.onlc.fr. Et là, ils trouveront plein de choses avec notamment le programme donc, du 28, 29, 30 septembre, c'est-à-dire fin de semaine prochaine. Et on les invite vraiment vivement à venir nous accompagner pour rentrer dans le tribunal et montrer que le peuple n'en veut pas de cette recherche-là. On n'est pas contre la recherche, on est contre cette recherche-là. Qui plus est, je voudrais juste vous rajouter un petit quelque chose. C'est que c'est un programme, ces vignes-là qui ont lieu déjà depuis plusieurs années, qui ont fait l'office de reconduction pour pouvoir être replantés. Et l'INRA met en avant que si on n'avait pas fauché, ils allaient écrire le fait que cette modification génétique ne marche pas. Alors je vois pas comment, parce qu'on a fauché 3 mois avant la fin d'un essai qui dure depuis plusieurs années, ils ne seraient pas arrivés aux mêmes conclusions. En tout cas, l'INRA le sait très bien, cette modification génétique ne fonctionne pas.
Merci Guillaume.
Oui, ça c'est vrai, hein, c'est des chiffres internes, mais on les connaît. Je voudrais rajouter encore autre chose, c'est que pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il faut toujours se rappeler qu'être au courant, savoir ce que c'est qu'un OGM et être capable d'argumenter suffisamment pour convaincre ses voisins, ses amis, c'est peut-être aussi très utile.
Merci beaucoup Hervé Lemeur. Donc merci aussi à Guillaume Decroix hein, et à Hervé pour votre intervention qui était vraiment très intéressant, qui a clarifié pas mal de points. On est obligé de terminer l'émission. Non, mais encore une petite minute. Donc, on va vous donner vite fait 2-3 infos qui sont peut-être pas essentielles, mais qui peuvent permettre aux auditeurs d'aller chercher un peu sur Internet et ailleurs.
Alors, surtout, visitez les sites intéressants comme celui d'OGM d'Angers avec...
de construction.
Voilà, et Info OGM.
Il n'est pas encore de construction.
À signaler aussi... la BD des Faucheurs qui est sortie chez Dessinacteur, donc c'est en ligne, on peut l'avoir aussi dans les biocopes, et une boutique verte dans le 11e où il y a la possibilité d'acheter différents produits liquides tels que la bière, le cidre et autres en soutien aux Faucheurs. Voilà, peut-être un mot à rajouter de votre côté au niveau de l'association OGM d'Angers.
C'est en fait la phrase qu'on dit sans arrêt, c'est qu'on ne s'oppose pas seulement aux OGM, on s'oppose aussi au monde qui leur a donné naissance. Mais aussi et peut-être surtout au meilleur des mondes vers lequel il nous entraîne.
Merci beaucoup Hervé, encore merci à Guillaume Decroix, Hervé Lemeur et merci aux auditeurs. On vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant c'est Radio Antilles, je crois.
Musique Antilles.
Hottest days with the hottest wind. I've lost all my names. Cut out new screams. But in the hottest days, with the hottest wind, I've lost all my names. To cut out new screams. Right away, you've got it 2 feet a night.
monkey but wash my hair at night. Run away. You two sweet feet seem so bright. You should do the monkey. I'll do the monkey but not the bird in pain. But I didn't know how new streams could come in this dry, dry body. Nothing seemed to come. Je me parle à moi-même. Oh, ma tête va exploser. Oh, c'est les enduits des murs qui ne laissent rien passer. Je cherche les rituels disparus dans la ville. Oh, petit rossignol. Politiquement, sans nous, ça pourrait nous non, politiquement, yeah, yeah.
Qui t'échappait, explosé, jusqu'à fêter.
Party.